l'immigration. Il a monté les marches au fur et à mesure, de sorte que il n'était pas étranger à la gestion, il n'était pas étranger à ce qui se passait à la Curie romaine, du fait que également aussi, comme on est, quand on est supérieur général ou prieur général d'une communauté, on est appelé à fréquenter les arcanes romaines. Alors, dans ce sens, c'est un homme qui avait quand même, qui était pas inconnu. Donc, de l'amener à devenir cardinal, ben, ça faisait partie d'une étape de sa croissance. N'oublions pas que c'est un jeune cardinal, donc il n'est pas, il a pas 75-80 ans. Donc, c'est dans ce sens que ça faisait partie de cette progression.
On le dit très, très près des gens pauvres, là, qui acceptent assez bien de vivre modestement. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant comme pape pour aider les gens pauvres? À ma connaissance, le Vatican n'envoie pas de chèques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les plus démunis de la planète lorsqu'on est rendu à cet échelon-là?
D'abord, il y a une influence via les cardinaux, les évêques des petites diocèses. Donc, il est, comme on l'a vu avec le pape François s'était fait proche des plus pauvres en étant lui-même en personne avec les plus pauvres. On sait, par exemple, que, je prends l'exemple du pape François, il a choisi d'être inhumé à la basilique où il se trouve à Sainte-Marie-Majeure, et les gens qui l'ont accueilli, il avait insisté pour que les gens qui l'accueillaient là, c'était les membres des itinérants des pauvres d'un institut pour la pauvreté qu'il avait fondé à Rome. Donc, il y a des éléments plus personnalisés qui peuvent être mis en place par le pape. Et de fait, il faut savoir que le Vatican, l'Église, envoie des subsides importants dans différents pays du monde. Entre autres, il y a des comptes qui sont rattachés au Vatican qui, par exemple, ont favorisé les vocations. Je sais qu'il y a des fonds qui sont envoyés en Afrique. Le pape a envoyé des fonds à Gaza, avec qui il était en communication constante. Donc, il a une possibilité d'intervenir. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut se rappeler que le Vatican, c'est un État. Donc, c'est un gouvernement.
Oui.
Et ce gouvernement, évidemment, a des comptes bancaires et il a des fonds qui sont disponibles. D'ailleurs, des fonds auxquels tous les chrétiens participent, les œuvres pastorales du pape. Nous avons une quête annuelle pour participer à ce qu'on appelle les œuvres pastorales du pape. Donc, il a des charités envers différents pays pour différentes situations. Donc, le pape Léon saura certainement trouver le moyen de se faire proche de tous ces gens.
Est-ce qu'il va continuer dans la même veine que le pape François, selon vous?
Ben, moi, il me semble que c'est très clair que oui, parce que d'abord, il a participé au dernier synode qui a eu lieu à l'automne dernier en tant que cardinal. Donc, il a eu l'occasion de partager avec tous les évêques du monde. Il a contribué à l'intérieur de ce grand travail qui datait déjà de 3 ans et pour lequel le pape a invité tous les chrétiens du monde à mettre en œuvre la méthode de qu'on appelle de la conversation dans l'esprit, d'être à l'écoute. Déjà, les premiers mots du pape Léon hier annonçaient déjà la poursuite de la mentalité d'esprit qu'il faut adopter à la suite du synode qui a été vécu l'automne dernier, et d'ailleurs pour laquelle le cardinal Lacroix nous a mis en marche, même nous, dans notre diocèse à Québec. Donc, je n'ai aucun doute sur la poursuite, sur l'état d'esprit dans lequel le pape Léon veut nous entraîner, en ayant justement parlé de paix, d'amour. Il a mentionné 2 fois au moins le mot « ensemble », qui est un mot qui fait partie du dictionnaire de notre propre évêque. Donc, déjà, de rallier les gens, d'être à l'écoute, de n'exclure personne. Tout le monde a sa place dans le cœur de Dieu, donc tout le monde a sa place au cœur de l'Église. Ça, c'est la mentalité, l'état d'esprit que le pape François a voulu insuffler à l'Église dans le grand tournant qu'on est en train de vivre, dans tous les sens, au sens social, ecclésial, économique, etc. Donc, pour moi, ça fait pas de doute qu'il va continuer dans la même direction.
Quel sera son plus grand défi au pape Léon?
Oh mon Dieu!
Il y en a plusieurs,
j'allais dire par où commencer. c'est sûr que dans ce qu'on annonce, je peux pas être prophète dans ce sens-là, mais c'est sûr que la question des migrants, la question des exclus, les questions économiques, face à, par exemple, le redressement des finances, juste la manière dont la gestion financière se fait à Rome, au Vatican, il y avait déjà des choses. Il y a plein de portes ouvertes par le pape François pour des réformes. Et ça, ben, c'est sûr qu'il va s'occuper de ces dossiers. Et puis, il faut se rappeler qu'il n'est pas tout seul. Moi, ce qu'on n'a pas entendu, évidemment, on le voit lui. Mais il me semble que c'est un homme d'équipe, c'est un homme qui, si on marche ensemble, ben c'est un homme qui est dans une congrégation religieuse, donc il sait tout l'impact et la force d'une communauté d'être ensemble pour agir, c'est ça qui transforme. Donc c'est pas lui qui m'a transformé tout, mais qui, avec les bonnes personnes qu'il va être capable de s'allier autour de lui, va être capable de faire avancer des dossiers, dont celui, par exemple, des scandales sexuels, qui est à peine commencé, à mon sens. Et la question des migrants, ça c'est très clair, les questions des relations entre les peuples, la question de la paix dans le monde, ce sont des dossiers très, très importants pour lesquels ils sont certainement sensibles et ils devraient s'attaquer à ça dès bientôt. D'ailleurs, j'entendais tout à l'heure que c'est lundi matin, il va donner une conférence de presse pour la première fois aux journalistes et là, on saura un peu mieux quelles seront ses priorités.
Il va se faire poser, évidemment, beaucoup de questions concernant la place des femmes dans l'Église, oui. L'homosexualité, le mariage entre conjoints de même sexe. C'est quand même des défis qui vont qui vont être présents, permanents pour lui, là.
Oui, mais en même temps, bien sûr, il aura à prendre position au nom de l'Église universelle. Mais dans les faits, dans la réalité, c'est pas lui qui regarde tous ces problèmes-là. C'est nous sur le terrain qui sommes capables d'être accueillants, de faire route avec ces personnes de toute nature, ces personnes qui vivent des blessures, ces personnes qui vivent une insécurité, ces personnes qui vivent des défis face à eux-mêmes. On n'a pas le droit de les rejeter. En tout cas, moi, je me sens pas capable de faire route avec eux. C'est un immense défi. Et je n'attends pas que le pape Léon, que le pape François, que le pape Jean-Paul II me disent quoi faire dans ce sens-là. J'ai moi-même, en tant que pasteur, cette responsabilité d'être le premier sur le terrain à donner ce visage de l'Église que le pape veut donner au monde entier. Alors, oui, il a sa responsabilité à son niveau, mais comme il a des décisions à prendre qui concernent le monde entier et qui doit tenir compte de tellement d'aspects, ben c'est à nous sur le terrain d'être capable de faire atterrir ça puis de faire preuve d'humanité, de compassion et d'accueil.
Et vous avez la liberté de le faire?
Absolument. Ah, pour ma part, moi je me sens tout à fait libre de le faire. C'est sûr que j'ai en tant que pasteur, en tant que curé, j'ai l'obligation de me faire porte-parole de l'enseignement de l'Église, mais l'enseignement de l'Église est une chose, mais la réalité sur le terrain en est une autre. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'Évangile. Le Christ était très très rigoureux sur les principes. Quiconque regarde une femme pour la désirer a commis déjà l'adultère dans son cœur avec elle. C'est pour moi qu'il l'a inventé. C'est écrit dans l'Évangile. Mais qu'est-ce que le Christ a fait avec la femme adultère? Il l'a pas condamné. Il l'a pardonné. Il l'a amené vers une vie nouvelle. Alors, c'est pour moi, déjà, c'est le principe même de l'Évangile qui doit être mis en œuvre. Les principes sont une chose, mais la vraie vie, c'en est une autre. Puis s'il y a des gens qui sont capables de le savoir, je pense à vous. J'ai pensé tout de suite à vous, M. Cloutier, quand j'ai l'élection du pape, vous avez un juriste qui a été élu, c'est le pape Léon a sa licence en droit canonique.
Ben donc, oui, ben, on en parlait un peu plus tôt ce matin.
La blague, j'ai dit que c'était l'avocat de Jésus.
Oui, mais on n'a pas idée à quel point le droit canonique est plus considérable à apprendre que le droit civil ou le droit criminel, là.
Effectivement, et de fait, c'est la concordance entre les deux qui est le grand défi à établir, parce que, par exemple, dans le cas des situations de scandale, le droit canon, évidemment, arrive à condamner, il recherche la vérité, il y a une punition, il y a une justice qui est rattachée à ça, mais ça n'enlève pas toute la responsabilité civile qui appartient justement au droit, donc au droit commun et dans chacun des États. Mais, par exemple, il y a de l'espace pour la repentance. Et dans le cas de la repentance, ben, dans le cas de droit canon, on peut rétablir quelqu'un puis lui donner une nouvelle chance, ce qui est pas toujours facile à établir dans le cas des poursuites civiles. Il y a la réparation du dédommagement, puis à un moment donné, ben, la personne est bloquée partout. Alors que dans le cas du droit canon, ben, il y a de l'espace pour la miséricorde. Mm-hmm. Alors, voilà. Ça fait partie, entre autres, des petits détails, là, différents.
Monseigneur Ouellet n'a pas participé au vote, mais Monseigneur Cyprien Lacroix l'a fait. Croyez-vous que Monseigneur Cyprien Lacroix peut avoir de nouvelles fonctions, qu'on puisse lui donner des fonctions plus importantes au sein de l'Église?
Évidemment, c'est possible dans mon livre à moi, compte tenu de la proximité. Mais là encore, tout dépend du plan de match que le pape Léon établira pour répartir ses effectifs. Parce que, d'une certaine manière, dans ma compréhension des choses, le cardinal Lacroix était l'antenne en Amérique de l'élan missionnaire que le pape François voulait insuffler. Donc, c'était très clair qu'il restait vers nous, puis qui, comme évêque de Québec, il était une manière de transmettre et de cette espèce de passerelle qui permet de continuer.
Est-ce qu'il pourrait
bien la pensée, l'esprit synodal? Que fera le pape Léon? Ben là, ça, c'est une autre histoire. C'est dans les choses possibles, parce qu'on s'entend que Mgr Gérald a acquis, de fait, une belle expérience. Il a fait partie du G9, donc les neuf cardinaux qui étaient autour du pape François pour les grandes décisions. Donc, tout est possible dans ce sens-là.
S'il y a une proximité avec le pape Léon, avec Cyprien Lacroix, est-ce que, parce qu'il risque de partir en tournée mondiale, Léon, assurément, est-ce qu'il pourrait à nouveau inviter son pape à venir visiter le Québec, par exemple?
Oh, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut juste trouver la bonne occasion. Dans le cas du pape François, il y avait cette proximité, évidemment, avec lui. Et il y avait aussi la question de la visite des Premières Nations. Là. C'est intéressant parce que les scandales sexuels ont été, au fond, l'occasion pour le pape François de poser un geste envers l'Amérique. Donc, il faut trouver le bon prétexte pour le faire venir à nous. Et ça, j'imagine que le cardinal Lacroix saura trouver, s'il y a lieu, la bonne façon.
Dernière question. Compte tenu du fait que ça ne faisait que 2 ans qu'il était cardinal, est-ce qu'il aurait pu refuser?
Ça fait partie des secrets qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment se déroule le conclave, ce qui se dit. C'est pas nécessairement comme dans les films. Hein? Mm-hmm. Alors, mais en même temps, quand on comprend la spiritualité des prêtres, les évêques, le cheminement intérieur que ces gens sont appelés à vivre, ben, il a reconnu qu'à travers la volonté exprimée par ses frères cardinaux, il y a quelque chose qui au niveau de l'instinct spirituel, moi j'appelle ça comme ça, parce que au fond, c'est pas juste le résultat de tractation politique et de dialogue, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition intérieure que c'est ce que je dois faire. Et quand j'aime quand je saisis qui est le pape Léon, lui qui est un disciple de Saint-Augustin, qui est un des très grands personnages de l'histoire de l'Église quand même. Saint-Augustin qui a eu une vie de paria, qui a eu une vie dissolue et qui est devenu évêque et qui a été un des grands réformateurs, un des grands théologiens de l'histoire de l'Église dans ses débuts. Ben déjà, il y a cette volonté de se conformer, de laisser le Seigneur agir. Et comme il est habité de cette présence, c'est comme s'il peut pas dire non devant cet appel qu'il ressent intérieurement venant de Dieu lui-même. Parce que à travers la volonté des cardinaux, il y a un appel que le Seigneur lui a adressé personnellement. Il aurait pu dire non. C'est évident parce qu'on est libre. Mais c'est tellement fort intérieurement que j'ai du mal à penser comment il aurait pu refuser.
On l'a vu émotif, il a pleuré sur le balcon. J'ai rarement vu ça d'une nomination de pape.
Ah, mais ils vont même pleurer. Il y a une chambre. Comment on l'appelle? La chambre des pleurs, je pense.
La chambre des larmes. C'est une toute petite chapelle qui est connexe à la chapelle Sixtine. C'est le premier lieu où le nouveau pape s'en va se recueillir. Et j'imagine, j'aime dire spontanément, il s'en va pleurer sa vie. Puis après, on passe à autre chose.
Ouais. Puis il le regarde en avant, là, parce qu'il voit ce qui s'est passé en arrière, mais là, il y a tout ce qui se passe, qui va arriver en avant,
il est appelé à répondre cette réponse que nous-mêmes, on a fait à plusieurs reprises, que tous les grands personnages de la Bible l'ont fait, il répond, me voici. Mm-hmm. Et ça, pour nous, c'est, même moi comme prêtre, lorsque j'ai été appelé à devenir prêtre, lorsque j'ai été pasteur, lorsque l'évêque nous convoque, il nous dit, on répond, me voici, c'est adhérer au plan de Dieu, finalement, sur nous et sur le monde.
L'abbé Pouliot, merci beaucoup de votre générosité de nous avoir parlé ce matin. C'est très apprécié.
Ben, c'est un plaisir partagé avec vous, Gaston.
Merci beaucoup, l'abbé Pouliot. À une prochaine.
Au revoir, à bientôt.
On s'arrête.
Bonjour, ici Hugo Lehoux. C'est avec plaisir et motivation que j'ai accepté la présidence d'honneur de la Marche de l'Alzheimer de Saint-Georges qui aura lieu le 25 mai prochain dès 9h à l'espace Carpe Diem sur la Première Avenue. En me joignant à cet événement, je souhaite non seulement sensibiliser la population à cette maladie qui touche plus de 11 000 personnes en Chaudière-Appalaches, mais aussi soutenir la mission essentielle de la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches qui est d'informer, d'accompagner, de soutenir et de contribuer à la recherche. Vous pouvez vous inscrire, former